Fait que je check voir. Il y a un influenceur que j'ai travaillé avec au Brésil qui a lancé sa vidéo en portugais en même temps que Pokémon Go s'est fait lancer au Brésil. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu comme 65 000 users en une journée. Puis ça a comme crash mes servers.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 139e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé Commerce Élite. Après Hypercroissance et Social Selling, on a décidé de lancer un tout nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Des entretiens tactiques seront également au rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. En plus d'aimer parler de croissance, on aime également les histoires croustillantes derrière la création des entreprises qui arrivent à faire des choses que les autres ne font pas. Et plus souvent qu'autrement, l'histoire de ces entreprises est intimement liée à l'histoire du fondateur. Et aujourd'hui sur le podcast, on a la chance de s'entretenir avec Henri-Charles McAlany, président et fondateur de Missplay, une application de fidélisation de jeux vidéo qui va générer des revenus de plus de 100 millions de dollars en 2022. Sa croissance, qui n'est pas passée inaperçue, vaut à l'entreprise la troisième place pour les organisations en plus forte croissance au Canada en 2021. Et vous allez le voir pendant l'entretien, des événements assez surprenants ont amené l'entreprise à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Sans plus attendre, ma discussion avec Henri-Charles McAlany. Henri-Charles McAlany, vous êtes le CEO et fondateur de la deuxième entreprise en plus forte croissance au Canada en 2021, Missplay. L'organisation qui se spécialise dans les programmes de fidélité pour les jeux vidéo sur mobile a connu plus de 13 000% de croissance depuis 2017. Il va fracasser les 100 millions de revenus annuels en 2022. Henri-Charles, merci énormément d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Merci beaucoup Antoine, c'est un plaisir d'être ici. Je suis un fan de votre podcast en passant.
Ah ouais, t'écoutais le podcast Hypercroissance?
Ouais, j'en ai écouté une couple, ouais, c'est vraiment nice. J'adore ce que vous faites pour les entrepreneurs au Québec.
Ah ben je suis content d'entendre ça Henri, puis bon je pense que ton entreprise elle est 100% orientée Hypercroissance et on va avoir beaucoup de plaisir d'en discuter ensemble aujourd'hui. Mais avant d'en discuter, Henri, est-ce possible pour toi d'expliquer un petit peu à notre audience qu'est-ce que Missplay spécifiquement?
Oui, avec plaisir. Fait que Missplay, c'est un peu comme le Air Miles des jeux vidéo mobiles. Fait que dans le fond, c'est une application mobile sur Android seulement en ce moment. Tu installes notre app sur ton téléphone Android, puis tu le lances et t'as comme... En ce moment, on a comme 400 jeux intégrés dans la plateforme. Fait que t'as comme 400 jeux qui sont recommandés. Tu choisis un jeu, c'est un peu comme Netflix, mais avec des jeux. Tu choisis un jeu que t'aimes, tu commences à jouer, puis tu reçois, c'est des jeux comme, on vient de signer Call of Duty, qu'on va lancer bientôt, fait que c'est des jeux quand même connus. On a tout Angry Birds, Yahtzee, Call of Duty, comme vraiment toute la gamme de jeux. Puis tu commences à jouer, puis tu peux recevoir des points de fidélité en trois différentes façons. La première façon, c'est le temps que tu joues au jeu. Tu accumules l'expérience dans un jeu qui est converti à des points. La deuxième façon, c'est si tu complètes des achievements ou des missions dans les jeux ou des niveaux dans les jeux. Fait que si tu unlock, si tu fais comme 5 kills de suite, quelque chose comme ça dans Call of Duty, tu peux unlock un achievement qui convertit à des points. Puis la troisième façon, c'est si tu achètes des trucs dans les jeux ou si tu subscribes à des Battle Pass, par exemple, tu reçois entre 8 à 13% cashback. Fait que ça, c'est les trois façons que tu peux... recevoir des points de fidélité, puis tu peux les échanger ces points-là pour des rewards dans notre shop, dans l'application mobile. Puis les rewards, ça inclut une grosse variété de choses. Par exemple, on a carte cadeau Amazon, carte cadeau genre Google Play que tu peux prendre tes points puis les dépenser dans les jeux directement. Tu peux même acheter maintenant. On vient de faire un partnership. Avec ShakePay à Montréal, tu peux échanger tes points de fidélité pour des Bitcoin, Ethereum. Fait qu'on a essayé d'ajouter, on a même des cartes cadeaux Sephora, On essaie d'ajouter des récompenses pour tous nos joueurs pour que ça plaît à tout le monde.
Puis on va en parler ensemble aujourd'hui parce que c'est assez exceptionnel l'histoire de ton entreprise. Mais avant de parler de Misplay spécifiquement, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. J'ai été capable de voir en faisant mes recherches que les affaires, c'est une histoire de famille chez vous. J'ai cru voir que ton père, que ton oncle, que ton grand-père ont été des entrepreneurs. Et toi également, tu étais un amateur de jeux vidéo quand tu étais plus jeune. Je serais curieux, Henri, de savoir, est-ce que dès ton plus jeune âge, c'était clair pour toi que ultimement, tu allais te lancer en affaires un jour?
Ouais, en fait, je pense que la réponse est oui. Mes parents, je pense que c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient que je sois entrepreneur parce que depuis que j'ai comme, je pense, un an, ma mère m'a comme habillé en businessman, puis depuis que je suis jeune, elle, comme ça va être un businessman un jour. Et j'ai comme idolisé un peu des gens comme quand j'étais jeune là, comme Bill Gates, plus tard Mark Zuckerberg, puis finalement Elon Musk. Mon oncle était entrepreneur, mon grand-père était entrepreneur, comme tu as dit, puis ça m'a inspiré beaucoup. Puis depuis que j'ai comme 12 ans, j'essaie de passer des business sur le côté. Mes parents m'ont pas genre gâté quand j'étais jeune, fait que si je voulais, disons, une nouvelle console Xbox, il fallait que j'économise pour l'avoir, fait que je travaillais, je faisais des petites business sur le côté pour économiser de l'argent, puis pouvoir acheter les jouets que je voulais, disons.
Puis, parlant de projet, j'ai l'impression que c'est assez intéressant, donc on va situer notre audience aujourd'hui. Tu as étudié à l'université McGill et pardonnez-moi l'anglicisme, en software engineering, je crois dans les années 2000-2010 à 2012 à peu près, dans ces eaux-là. Et à ce moment-là, tu avais un projet d'études à faire que tu as lancé. Et ce projet d'études-là, ultimement, c'est devenu une organisation qui a même été acquise plus tard et qui, on va le dire dans quelques minutes, t'a amené d'autres choses encore plus grandes que simplement une acquisition. Peux-tu nous ramener à ce moment-là, à ce moment de tes études où est-ce que tu as lancé ce fameux projet d'études-là qui s'appelle Tab2, si je pense bien. Est-ce que tu pourrais situer un petit peu l'audience par rapport à ce moment-là de ta carrière?
Oui, j'étais comme étudiant à McGill, en génie de logiciel. Puis, dans genre un micro, c'était un projet de recherche. Fait que j'ai bâti, dans ce temps-là, c'était en 2010, le iPad venait de sortir. Puis moi, je voyais le iPad comme l'ordi du futur pour les étudiants. Comme j'aimais le fait qu'il était comme touchscreen. J'imaginais qu'un jour, il y aurait un crayon. Puis j'étais inspiré par, il y a un film appelé, Starship Troopers. C'est un vieux film des années 90. Puis il y a une scène au début de ce film-là où est-ce que ils sont dans une classe, puis ils dessinent des trucs sur leur tablette, puis ils s'envoient des messages. Fait que ça m'a vraiment marqué, ce film-là, quand j'étais jeune. Puis je voulais comme essayer de créer ce Classroom of the Future avec du software sur l'iPad. Fait que j'ai créé une application HTML5 qui permet de pouvoir prendre un crayon puis écrire sur un iPad tes notes en cours. Ça a commencé comme ça, puis c'est quand tu prenais tes notes, ça savait tes notes dans le nuage en temps réel. Puis j'ai évolué ce projet-là pour devenir un peu un logiciel qui permet aux professeurs d'uploader leur PowerPoint, puis présenter leur PowerPoint à un cours, genre une classe remote. Comme si les étudiants peuvent être chez eux, puis tu peux présenter ton cours, on va enregistrer ta voix. Dans un site web, puis ça va un peu comme on fait en ce moment, puis ça va comme transmit. C'est vraiment pareil que maintenant, c'est comme du streaming, mais ça permet aux étudiants de comme écouter le cours puis d'écrire leurs notes personnelles par-dessus les slides PowerPoint, puis ça sauvegarde tout de façon que tu peux réécouter le cours plus tard pour étudier, puis tu peux revoir tes notes se faire écrire. Fait que c'est comme t'as toutes les notes du professeur qui se font comme transcrire automatiquement. Tu peux acheter tes notes privées par-dessus ces notes, puis c'est tout saved dans le nuage. Puis tu peux réécouter le cours avec sa voix. Puis c'était comme... Puis on avait ajouté des trucs sociaux, comme les étudiants pouvaient chatter avec eux, entre eux. C'était une plateforme vraiment genre remote teaching. Puis j'ai fait ça pour un cours. Je l'ai pas fini, pour être honnête. Puis j'ai rencontré un entrepreneur à Seattle qui avait une compagnie de consultation pour les écoles. Puis j'ai monté le logiciel, puis il a acheté pour assez d'argent pour s'acheter une belle voiture, mais rien de fou, genre pas assez d'argent pour prendre sa retraite, disons. fait que ça, c'était mon premier genre mini exit.
Sauf que ce projet-là, en plus d'avoir été acquis, t'as ouvert les portes à un entretien chez Microsoft. Si je pense bien, ultimement, t'as passé quelques années chez Microsoft. Donc, j'ai été capable de faire quelques écoutes, de faire mes recherches, et j'ai cru comprendre qu'on t'a poussé à aller faire cet entretien-là parce que toi, au départ, c'était pas dans tes plans d'aller travailler pour une grosse entreprise technologique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ouais, c'est vrai. C'est une belle remarque. Ouais, fait que dans le fond, moi, je voulais être entrepreneur. Fait que mes parents étaient un peu contre... Pas mes deux parents, mais mon père était plus comme... Il était brûlé un peu dans l'entrepreneuriat, mon père. Fait qu'il était il poussait un peu à prendre un peu moins de risques puis de trouver une job stable. Fait que quand je graduais, Microsoft m'a approché, ils m'ont offert un job. C'est vraiment une belle offre.
Et ils t'ont approché à cause du logiciel, parce que je pense que l'entretien était pas un entretien d'embauche comme les autres, là.
Ils m'ont approché, pour être honnête, ils m'ont approché parce que je suis à McGill, puis ils sont venus sur le campus, mais j'ai montré le logiciel pendant que j'étais en entrevue. Mm. Puis c'est le logiciel, on a juste parlé du logiciel tout le long de l'entrevue. Et c'est définitivement ça qui m'a landé la job. Ouais, fait que je recommande, si t'es étudiant, travaille sur un projet cool, puis ça va te trouver une job facilement dans les grosses compagnies. Mais ouais, ils m'ont fait un job, puis j'étais comme entre soit je vais chercher du financement, puis je travaille sur mon projet, ou je le vends et je travaille à Microsoft. Fait que j'ai un peu de pression de mon père, surtout de travailler à Microsoft. Fait que j'ai décidé de vendre mon logiciel et de travailler à Microsoft. Donc ça, c'était la démarche qui s'est passée.
Puis le présent, quand t'es aux études, pour bien situer l'audience, c'était à Montréal. Donc on s'entend, t'étais à McGill et tout ça était en présentiel à Montréal.
Ouais, j'étais à Montréal, ouais, exactement.
Mais par la suite, pour travailler pour Microsoft, t'as déménagé aux États-Unis, t'as déménagé, je pense bien, que c'est à Redmond, dans l'État de Washington, donc à un endroit totalement différent. Comment tout ça s'est déroulé? Est-ce que ça s'est fait rapidement? On t'a offert le job et tu devais déménager quelques semaines par la suite?
Ouais, c'est ça. Eux, ils viennent sur le campus de McGill, ils font l'entrevue, puis là, ils t'envoient là-bas pour faire l'entrevue. Ça, c'était tout avant la pandémie, fait que là, je sais plus c'est comment, mais c'est sûrement sur Zoom. Mais tu fais l'entrevue, puis ils t'offrent une job, mais ouais, tu dois déménager là-bas. Fait que j'ai déménagé en avril 2012. J'ai vendu mes trucs. J'étais allé là-bas, j'avais un appartement à Seattle. Puis je prenais le bus pour aller, je conduisais éventuellement au campus de Microsoft qui est situé à Redmond. C'est une petite ville un peu perdue, mais c'est genre juste Microsoft dans dans une petite ville. Fait que tu veux pas vivre là.
Ouais, exact. Tu devrais changer le nom de la ville pour Microsoft, là, pour que les gens le sachent un peu plus. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours. Puis bon, de ce que j'ai été capable de voir, tu travailles dans l'entreprise qui, je pense, au moment où on se parle, est la deuxième plus grosse entreprise au monde en termes de valorisation. Tu travailles là de 2012 à 2015. Sur quel projet spécifique tu as travaillé? Qu'est-ce que ça t'a ouvert comme réflexion? sur la technologie, sur le monde des affaires, de travailler dans une si grande entreprise?
Ouais, j'ai commencé, mes premiers, j'ai travaillé là 4 ans en tout, fait que de 2012 à fin 2015, puis j'ai commencé sur l'équipe de networking, fait que c'est l'équipe qui est responsable pour créer les protocoles, genre le code qui fait en sorte que ton ordi peut communiquer sur Internet. Fait que c'est vraiment genre low level, vraiment genre c'est du C programming, c'est super low level. C'est, je sais pas si t'as entendu le concept de HTTP, TCP. Mm-hmm. C'est vraiment genre les building blocks qui permettent à ton ordi de faire la communication sur Internet. J'étais le product manager pour TCP, pour WebSocket. C'était vraiment, vraiment low level. Des trucs que l'utilisateur typique va pas comprendre, va pas être exposé à ces trucs-là. Fait que c'était très low level, mais c'était vraiment technique et très stimulant pour un ingénieur, je dirais. Fait que, mais j'avais un mindset un peu plus business. Fait que j'avais envie d'être plus user-facing, de travailler sur la couche de l'application que les gens peuvent interagir avec.
Bien sûr.
Fait que je voulais, fait qu'après 6 mois, j'ai changé d'équipe. Fait que j'ai dû refaire une entrevue complète pour changer d'équipe. J'ai déménagé à l'équipe qui fait le user interface puis le user experience de Windows. J'étais déjà dans l'équipe Windows, fait que c'était une transition plus facile. Fait que j'ai travaillé, au début, je travaillais sur Windows 8.2 ou 8.1, puis 8.1. Puis éventuellement, j'ai travaillé sur la création et l'idéation de Windows 10. Fait que ça, c'est la version Windows avant celle qui vient de sortir. Puis dans Windows 10, il fallait... dans le fond, dans Windows 8, ils ont fait une grosse erreur. Ils ont enlevé le... Ils ont complètement changé l'interface pour ressembler à un iPad. C'est comme vraiment un touch-friendly user interface. Mais pour des gens qui ont des souris, fait que ça faisait pas de sens. Fait que c'était une grosse erreur. Puis la raison pour laquelle on fait une grosse erreur, c'était parce que ils ont essayé de bâtir des produits un peu comme Apple. Ils ont fait ça en secret, ils ont pas vraiment exposé ça au public. Puis ils ont juste release one shot. Ils ont dit surprise, on a changé ça. Puis c'est vraiment beau, mais c'est pas très friendly pour la souris. Fait que pour Windows 10, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un système. On voulait comme bâtir l'interface avec le public. Fait qu'on a release Windows 10 Alpha vraiment, vraiment tôt. C'était comme à peine, genre vraiment, honnêtement, quasiment embarrassing to show to the public. Moi, j'ai travaillé sur le Start Menu, puis genre, on voulait ramener le Start Menu de Windows 7, parce qu'il l'avait enlevé en Windows 8. J'ai créé un système avec mon équipe qui permet de demander des questions aux utilisateurs en temps réel, après qu'ils, comme, font une couple d'actions dans le système. Fait que disons que tu délites un fichier ou si tu renommes un fichier ou quelque chose comme ça, on peut demander une petite question rapidement, like, how was your experience, genre renaming your folder ou quelque chose comme ça. Puis tu peux juste cliquer genre 1 à 5 étoiles. Puis si tu cliques 1 étoile ou 5 étoiles, on peut demander qu'est-ce que t'as aimé ou qu'est-ce que t'as pas aimé. Puis tu peux écrire du texte. Puis on va utiliser du AI pour comme analyser le texte qui est envoyé. Puis on va créer des insights pour informer le design de genre la prochaine version de Windows. Fait qu'on faisait du design en temps réel un peu avec les utilisateurs en demandant des questions sur leur interaction. Puis on utilisait du AI puis du NLP pour analyser le texte. Fait que c'était du subjective feedback analysis. Fait que c'était vraiment cool. Puis on a commencé à faire ça juste pour le start menu de Windows 10. Puis éventuellement, les autres équipes le voulaient, fait qu'on le comme expand à d'autres équipes. Puis éventuellement, il y a d'autres produits comme Office le voulait, Xbox le voulait, fait qu'il y a vraiment tous les produits le voulaient. Fait qu'ils ont créé une division complète à Microsoft pour ce qu'on a créé juste pour notre équipe. Fait que là, j'ai réalisé, OK, peut-être qu'il y a d'autres compagnies qui voudraient ça à part Microsoft. Fait que quand on a shippé Windows 10, j'ai décidé de partir ma propre compagnie, Misplay. Puis Misplay, au début, c'était une plateforme pour tester les jeux vidéo. Ça prenait le concept que j'ai un peu créé à Microsoft. Puis je voulais l'amener aux jeux vidéo. Fait que c'était de prendre les jeux qui étaient en développement, qui n'étaient pas encore finis, puis de prendre le public, les joueurs dans le public, pour qu'ils puissent co-créer les jeux avec les compagnies de jeux vidéo, puis leur demander des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent du jeu, puis des suggestions pour améliorer les jeux avant qu'ils soient finis. Fait que ça, c'était le concept de Misplay au début. Puis on récompensait justement les joueurs pour tester les jeux. Fait qu'on a évolué de ça à programme de fidélité, qui était un c'est un pivot qui était plus je sais pas si c'est dans tes questions là, mais c'est une autre histoire.
C'est excessivement intéressant. Puis peut-être juste avant de parler de Misplay, parce que bon, t'es à Microsoft, tu travailles avec des gens qui, j'imagine, sont excessivement brillants. Tu vois des projets que peu de gens peuvent voir parce que c'est une entreprise de renommée qui va travailler sur des projets que peu d'organisations dans le monde ont la chance de travailler. Et je pense qu'avant Misplay, Henri, t'as lancé un autre projet avec un de tes amis de l'époque. Et là, cette fois-ci, ça a été un peu compliqué, ce projet-là, parce que j'aimerais en parler avant de parler de Misplay, parce que je crois que ce qui est arrivé avec ce projet-là t'a ouvert les yeux sur certaines erreurs que tu ne devais pas répéter si tu voulais te lancer des projets dans le futur.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, fait que comme tu as dit, à Microsoft, c'est tu travailles avec les gens les plus intelligents au monde. C'est vraiment, c'était des gens de comme MIT, Harvard, Stanford, des grosses écoles des États-Unis surtout. Fait que c'est très intimidant au début, mais à la fin de la journée, c'est tous des humains, puis comme tout le monde. Puis tu te rattrapes, tu penses à un autre, ils pensent avec des angles différents, puis tu t'adaptes à ça, puis tu commences à penser un peu comme eux. Puis ouais, j'ai eu la chance de travailler avec, en fait il y a beaucoup de Canadiens, Microsoft engage beaucoup de Canadiens. C'est justement j'ai rencontré un ami qui était de Waterloo, il travaillait à Microsoft aussi, puis on est devenus des bons amis. C'était aussi un product manager. Puis après le travail, genre vers 6 heures, on allait à un café, puis on travaillait sur une app ensemble. On appelait ça Backflip. C'était en 2013 qu'on travaillait là-dessus, 2014. C'était un peu comme TikTok, mais avant TikTok, c'était comme genre la même expérience que TikTok, comme tu swipais puis ça snappait au prochain. Mais t'avais 5 pages, chaque expérience, c'était comme 5 pages que tu pouvais flipper comme un petit livre, puis il y avait des vidéos puis des photos, puis ça permettait aux gens de dire une histoire, puis tu pouvais follow les gens, tu pouvais like, tu pouvais comment. Fait que c'était comme un mix de TikTok et des stories, mais avec genre un flipbook experience. Puis c'était vraiment cool comme concept, moi je trouvais. Puis on était 2 ingénieurs, 2 designers, l'app était très beau, bien construit, marchait super bien, mais on a posté ça sur Reddit, on a posté ça sur Product Hunt, sur Beta List aussi, puis on a réalisé rapidement, ok, on a eu genre 600 000 users, mais on n'avait pas les millions, mais on avait, c'était pas assez, il fallait avoir les millions d'users pour avoir un succès, fait qu'on était un peu pognés, tu sais, on avait notre job temps plein, fait que on était tellement épuisés parce qu'on avait, comme à chaque jour, de 6 heures à comme 2 heures du matin, on codait dans des cafés puis dans des bars. Puis pendant 6 mois, on a fait ça. Puis on était quand même brûlés à la fin parce qu'on avait la job pendant la journée puis on travaillait jusqu'à comme 2 heures du matin chaque jour. Fait qu'après 6 mois, on était brûlés. Puis on a comme... Tu sais, après, quand tu réussis pas avec le marketing, t'as un job genre qui paye bien. Tu vas commencer à focusser un peu ton énergie sur ta job, puis tu vas prendre une pause parce que t'as comme un safety net,
un coussin, qui est vraiment confortable. Bien sûr.
Un coussin, exactement. Fait que les deux, on a un peu comme, on était épuisés, puis on savait pas comment faire du marketing, pour être honnête. Fait qu'on a un peu arrêté, puis on a continué à travailler à Microsoft, puis on a un peu abandonné le projet. Puis ça c'était un petit projet qu'on a fait pendant que je travaillais là-bas, sur le côté.
Ben, un petit projet qui vous a quand même amené 600 000 utilisateurs, il faut le dire.
Et c'est non, excuse. Laisse-moi clarifier. C'était entre 600 et 1000. Juste 1000 users, c'est tout, ouais.
Entre 600 et 1000 users. OK, bon. Dans ce cas-là, je comprends qu'on va peut-être laisser le projet un peu de côté. Si ça avait été 600 000 utilisateurs, je m'aurais dit, bon, vous avez peut-être abandonné un peu vite, là. Les choses auguraient bien. Mais il y a un point qui est intéressant, et tu l'as mentionné, c'est pour ça que je voulais parler de ce projet-là, c'est que tu t'es rendu compte de l'importance du marketing dans la commercialisation d'une entreprise, parce que bien entendu, tu es un ingénieur de base, tu as une bonne compréhension du produit que tu veux commercialiser, mais il y a une grosse distinction entre faire un bon produit et s'assurer que le produit soit connu par la suite. Et donc là, on revient à Misplay maintenant. Et quand tu as fondé Misplay, j'ai l'impression, de ce que j'ai été capable de comprendre, que la première année, tu vivais un petit peu ce même enjeu-là. Tu avais, selon toi, un bon produit, mais encore une fois, le commercialiser, ce n'était pas si facile.
Ouais, c'est vrai. Misplay, c'est encore plus difficile, je dirais, que... Mais en fait, c'est les deux étaient difficiles. Le problème avec Misplay et même l'application que j'ai décrit, qu'on a pas réussi à lancer, t'as ce qu'on appelle un chicken and egg scenario. Où est-ce que, si t'as, comme, pour Misplay, si t'as pas les jeux, c'est dur d'avoir les utilisateurs. Parce que, ils vont venir, il y a pas de jeux. Puis si t'as pas les utilisateurs, c'est dur de convaincre les compagnies de jeux vidéo de s'intégrer dans ta plateforme. Fait que t'as un peu un...
C'est l'œuf ou la poule.
Ouais, c'est ça, l'œuf ou la poule. Puis c'est très dur à résoudre ces problèmes-là, mais c'est quand tu les résous, ça crée vraiment une forte... Ta business est très défensible, comme on dit en termes de business, parce que c'est dur pour que la compétition rentre. T'as des network effects qui sont très forts une fois que tu réussis à résoudre ce problème-là. Fait que, ouais, comme pour Misplay, au début, c'était un testing platform. On a réussi à convaincre 30 jeux. Ben, c'était juste moi au début. J'ai essayé de convaincre des gens de quitter Microsoft pour me rejoindre. Une leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut faire ça à temps plein. Parce que j'ai réalisé que si t'as un coussin, si t'as un job qui t'attend, tu vas abandonner rapidement. Mais si t'as pas de job qui t'attend, puis t'as pas de coussin, tu vas tout faire pour survivre. Puis c'est à ces moments-là que tu vas penser de façon créative, puis que tu vas réussir. Puis c'est ça que j'ai fait avec Misplay. J'ai quitté Microsoft avant de lancer Misplay. J'ai pris une couple de semaines de congé pour comme juste pour coder un peu un prototype, pour voir un peu, juste pour comme gauger combien de temps ça va me prendre pour faire ça. Puis j'ai estimé que ça va me prendre environ un an pour le lancer, puis avoir un peu de revenus pour comme avoir un sens si ça va marcher ou pas. Puis je me suis dit, OK, je vais quitter ma job, je vais faire un an. J'ai économisé de l'argent, je vivais comme un bas coût. Et j'ai fait ça. Puis ouais, quand j'ai lancé MSP, le plus gros challenge, c'était une fois encore, c'est le marketing. On avait... Ben aussi, c'était dur de convaincre les compagnies de jeux vidéo de travailler avec nous. Mais j'ai réussi à convaincre 30 jeux au début. Puis là, c'était rendu les utilisateurs le problème. Puis, once again, on avait comme peut-être 1000 à 2000 users au début, puis c'était pas assez. En fait, j'ai lu plusieurs livres sur le marketing. Il y a un livre que je recommande, ça s'appelle Traction. C'est un très bon livre.
Il est juste derrière moi.
Ah, oh, parfait. Ouais, c'est un excellent livre sur le marketing. Puis, j'ai appliqué plein de techniques de ce livre-là, justement. Le bullseye technique est très bon. J'ai fait du influencer marketing, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un landing page, j'ai réussi à avoir des subscribers avant de même lancer le produit. Fait que j'ai fait du email marketing avec ça. Puis j'ai réussi à avoir un peu d'users au début. Le landing page m'a fait en sorte que j'ai pu avoir assez d'users pour convaincre assez de jeux pour me rejoindre. Fait que c'est même que j'ai un peu brisé le problème au début. Puis après, j'ai fait du influencer marketing qui a vraiment aidé. Mais le influencer marketing, c'est vraiment hit or miss. C'est vraiment difficile. Je pense que c'est rendu plus difficile maintenant qu'avant. Mais ouais, comme... en fait, j'ai failli abandonner. J'étais comme... Après comme 3 mois de... J'avais à peine des users. J'étais déjà à Toronto avec un ami. On pitchait des investisseurs sur une autre idée complètement. Puis pendant que j'étais à Toronto, je dormais sur un matelas à terre chez mon ami. Puis, à 7h du matin, mon téléphone commence à vibrer. Et j'ai plein de notifications qui m'avertit que mes serveurs Amazon, ils ne répondaient plus. Ils crashaient dans le fond, mes servers. Fait que j'ai checké voir qu'est-ce qui se passe. Puis en effet, tous mes servers étaient genre non fonctionnels. Ils répondaient plus. Le site web ne marchait plus. L'app ne marchait plus. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Fait que je check voir. Il y a un influenceur que j'ai travaillé avec au Brésil qui a lancé sa vidéo en portugais en même temps que Pokémon Go s'est fait lancer au Brésil. Puis ça a fait en sorte que j'ai eu comme 65 000 users en une journée. Ça, ça a comme crash mes servers. Même pas une journée, genre une heure. Puis ça a comme crash. Ça a comme tout crash nos servers. Puis j'étais allé au Starbucks. C'était juste moi. C'était encore juste moi en ce temps-là qui travaillais sur Musplay. Puis j'étais allé au Starbucks. Puis j'ai passé comme, je pense, 8 heures de suite à essayer d'arranger les servers. C'était très stressant. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, OK, premièrement, il faut que je continue à travailler sur Musplay. Puis deuxièmement, il faut vraiment un co-founder ou quelqu'un qui peut m'aider. Parce que là, dans ce temps-là, je faisais le engineering, le design, la prévention de fraude, le AI, puis les ventes et le marketing. Fait que c'était vraiment too much pour une personne. Fait que c'est là que j'ai recruté Eugene, qui est devenu mon co-founder. Puis lui, il s'est occupé de tout ce qui est vente et marketing à partir de là. J'ai comme transféré toutes mes connaissances sur le influencer marketing, sur les ventes. Puis il y a takeover, puis on a scalé de là.
Puis on est en quelle année au moment où l'apparition de l'influenceur au Brésil s'est intégrée à cette stratégie de commercialisation-là? Si tu peux nous situer un peu.
Ouais, c'était. Ben, j'ai quitté ma job le 2 octobre 2015. Puis j'ai l'influenceur viral au Brésil, c'est arrivé en août 2016. Fait que ça, c'est le take-off en août 2016. Puis là, j'ai décidé de focusser vraiment toute mon énergie sur Musplay, puisque je commençais à me focusser sur d'autres projets. Puis, Eugene a joined aussi en août 2016. Ouais, ça, c'est le timeline pour ça.
Puis ce qui est intéressant dans ton histoire, Henri, c'est que si on analyse bien votre portrait économique, vous avez fait seulement une fois une ronde de financement. Est-ce que je me trompe ici?
Non, c'est vrai. Jusqu'à décembre. Ce décembre, ouais.
Ce décembre. Donc, c'est en 2017 que vous avez levé, je pense, $500,000 pour s'assurer que vous soyez capable de continuer un peu avec la croissance de votre organisation. Vous arrivez aujourd'hui, vous allez faire des centaines de millions de dollars en revenus. Pour quelle raison vous avez simplement levé de l'argent une fois? Puis d'ailleurs, c'est tout à votre honneur, là. Au contraire, je pense que c'est une excellente chose de travailler de cette manière-là. Mais c'est rare. C'est rare que des organisations qui vont avoir 65 000 utilisateurs en une journée, qui vont commencer à avoir de l'attraction, ne vont pas aller lever des dizaines et des dizaines et des centaines de millions de dollars en financement.
Ouais, c'est une bonne question. On avait un modèle d'affaires. Mais dans le fond, il y a... Je suis un peu contre les VCs. J'avais entendu des horror stories des VCs, pour être honnête. J'avais pas un réseau très fort dans ce temps-là, dans le venture capital world. Puis, j'avais mes économies qui me permettaient de financer le projet. Puis, on commençait à recevoir des revenus très rapidement parce que les compagnies de jeux vidéo nous payaient. Puis, on utilisait les cartes de crédit pour manager le cash flows. Fait qu'on on gérait tout ça. Puis, au début de 2017, on a réalisé, OK, on va pivot au business model qui va être programme de fidélité. Puis en fin 2017, on a lancé ce nouveau pivot-là. Puis c'est quand on a lancé le nouveau pivot qu'on a vu que nos KPIs étaient incroyables. Parce que le problème avec le testing model, c'était que les tests duraient peut-être 30 minutes à 60 minutes max. Fait que les gens finissaient les trois niveaux du jeu, ils remplissaient un petit sondage, puis il avait fini avec le jeu. Puis là, il allait au peut-être 2-3 prochains jeux qu'il aimait. Puis après, il avait plus rien à faire sur l'app, fait qu'il s'en allait. Fait qu'on perdait nos users rapidement. Fait qu'on voulait pas créer une plateforme où est-ce qu'on perdait nos users rapidement. Je pense qu'on aurait pu peut-être résoudre ce problème-là avec, du customer outreach. On disait, il y a un nouveau jeu qui est disponible par email, par texte. Mais on voulait créer une plateforme où est-ce que les gens pourraient jouer à chaque jour. On voulait créer une app que les gens pouvaient jouer. Ils pouvaient utiliser ça à chaque jour, puis ça pourrait être vraiment, ça fait partie de leur vie un peu. Fait qu'on a brainstorm, puis je parlais à une amie à Aéroplan, puis ça m'a un peu inspiré, genre le modèle de fidélité. Puis on a fait un white paper, on l'a présenté à nos clients, puis on avait un modèle qui pourrait récompenser les gens de façon long terme. Fait qu'on a lancé ça, on a relancé cette plateforme. Cette idée-là, on l'a lancée en septembre 2017. Puis les KPIs étaient incroyables, la rétention était super élevée, les clients étaient super contents. Puis ça, c'était pas pour les beta games, ça c'était pour les jeux de production, les jeux qui étaient comme genre disponibles au public, comme Call of Duty par exemple. Puis les joueurs ils aimaient ça, fait que c'était vraiment un bon pivot. Puis on a vu qu'il y avait du product market fit, fait qu'on est allé chercher du financement pour accélérer la croissance rapidement parce qu'on avait découvert un peu quelque chose qui était nouveau. Bien sûr. Puis on voulait être on était les premiers à faire ça, qu'on voulait capitaliser puis faire de l'hypercroissance justement avec ce capital de risque-là.
Puis bon, on arrive à peu près, je pense, en 2018. Où est-ce que là, tu intègres l'incubateur Next Canada? Peux-tu nous expliquer un petit peu comment a été ton expérience là-bas et comment ça t'a aidé pour le développement de Miss Play?
Ouais, Next Canada, c'était un ami qui m'a... Justement, mes amis de ShakePay, c'est une autre compagnie montréalaise qui font la crypto, c'est comme un échange de crypto-monnaies. Ils me disaient qu'elle allait peut-être rejoindre ce programme-là. J'ai appliqué, puis ils m'ont accepté. Puis ce que j'aimais de leur programme, parce que j'ai aussi considéré Y Combinator. Fait que Y Combinator,
ils commençaient
à me parler, puis j'étais comme, j'ai parlé au président de Y Combinator, puis ça allait bien. Mais j'ai appris qu'ils voulaient prendre 7% de ma compagnie pour genre 100 000 $. Puis j'étais comme pas down pour ça. Fait que Next Founder, à Next Canada, ils prenaient 0% d'equity, puis ils donnaient autant de mentorship puis un bon réseau et tout. Fait que je me suis dit que j'ai décidé de comme aller avec Next Founder, puis c'est au Canada, c'est à Toronto. Pour être honnête, je suis juste allé 3 fois à leur programme. C'est un programme qui dure genre une été au complet, mais il faut que tu déménages à Toronto, il faut que tu habites là. Puis j'étais très occupé parce que j'avais ma business qui roulait, puis j'avais commencé à embaucher plein de gens, puis c'était tout à Montréal. Fait que je suis allé 3 fois pour aller à des cours. Il y avait des cours comme à l'Université de Toronto où est-ce qu'ils t'apprenaient comment raise de l'argent, ils t'apprennent un peu à scale ton mindset, comme ils t'apprennent à vouloir une plus grosse compagnie puis de pas vendre ta compagnie trop tôt. Fait que ce que j'ai appris, la plus grosse leçon pour moi de Next Canada, c'était de pas vendre trop tôt. Fait que j'ai eu des offres pour acheter la compagnie à 10 millions de dollars, à 20 millions de dollars. Puis c'est très tempting, mais grâce à le mindset que j'ai appris de Next Canada, ils t'apprennent à aller pour le 1 milliard de dollars et pas pour le 10 ou le 20 millions. Fait que je pense que c'est ça que j'ai appris d'eux. Ils m'ont aussi appris l'importance des network effects. Fait que c'était un mot que j'ai appris de Next Canada. Puis ouais, network effects, c'est vraiment, je sais pas, juste un petit primer pour le podcast. C'est quand il y a un avantage d'avoir plus d'utilisateurs ou plus de contenu qui donne un avantage sur la compétition. Fait que par exemple, pour Instagram, c'est plus intéressant que Snapchat parce que tous tes amis sont là-dessus. Fait qu'il y a du network effect. Puis tes amis, c'est important parce que tu veux voir leurs stories puis tout. Fait que c'est pour ça qu'Instagram sont en train de gagner parce qu'ils ont déjà plein de tes amis dessus. Fait qu'ils ont des strong network effects. C'est dur de déplacer Instagram parce que l'importance des gens sociaux, c'est vraiment important pour nous les network effects. C'est le plus de jeux qu'on a, le plus que c'est dur pour qu'une nouvelle startup compétitionne avec nous, parce que si un joueur veut choisir entre Miss Play ou une nouvelle startup, ben ils ont 400 jeux incluant Call of Duty, Angry Birds, Candy Crush avec Miss Play. Fait que pourquoi est-ce qu'ils joueraient avec une plateforme qui a juste comme 10 jeux, disons? Fait que c'est un peu ça, les network effects.
Puis là, t'as parlé de grandir, d'atteindre 1 milliard de dollars en valorisation, mais comment vous avez grandi? Parce que là, je peux comprendre qu'il y a eu l'influenceur au Brésil, je peux comprendre par la suite que t'as eu un bon modèle d'affaires, que t'as eu des bonnes idées avec Next Canada. Mais là, vous êtes la deuxième entreprise en plus forte croissance au Canada. Vous avez fait 13 000% de croissance depuis 2017. Vous allez fracasser les 100 millions de dollars en revenus cette année. Comment vous vous êtes pris?
Ouais, c'est... On était les premiers à inventer ce modèle d'affaires-là. Fait que ça nous a donné un gros avantage pour l'hypercroissance. On a fait beaucoup de marketing. On a eu beaucoup de bouche à oreille. Les jeux... Genre, c'est rendu que maintenant, les jeux veulent join notre plateforme, puis on refuse des jeux des fois. Fait que, tu sais, des gros jeux comme Call of Duty, ça prend du temps. Ça nous a pris plus qu'un an de les avoir sur notre... pour les convaincre de venir sur notre plateforme, mais il y a plein de petites compagnies de jeux vidéo qui peuvent s'ajouter. Fait que là, on a comme beaucoup de jeux. On a vraiment ce network effect, ça crée un flywheel effect.
Bien sûr.
Parce que le plus de jeux que t'as, le plus que les gens veulent venir, les users sont plus contents, ils retiennent mieux, ils vont dire à leurs amis de venir. Si t'as comme, si disons que tu ajoutes un gros jeu comme Call of Duty, les gens, ils dépensent déjà de l'argent dans Call of Duty. Là, ils peuvent avoir 13% cashback. C'est comme un no-brainer pour ces gens-là. Fait que là, ils vont venir, ils vont dire à leurs amis qui dépensent de l'argent dans Call of Duty de venir aussi, puis ça crée ce flywheel effect-là. Puis notre app, elle commence à aller viral. Mais au début, il fallait faire beaucoup de marketing, du paid marketing au début. Puis là, les organics ont commencé à rentrer, puis ça a créé un flywheel effect, puis ça a vraiment commencé à accélérer rapidement. Honnêtement, on a accéléré plus rapidement qu'on l'aurait imaginé. On savait pas à quel point on pouvait, genre, on savait pas c'était quoi la taille du vrai marché. On savait que c'était grand, puis on croyait que c'était grand, mais on commence à prouver que c'est vraiment un gros marché. Il y a beaucoup de gens qui veulent ça, dans le fond. Mmh.
Puis là, c'est quoi les plans futurs? Qu'est-ce qui vous attend pour 2022-2023?
Ouais, là, on check. Ben, dans le fond, il y a plein d'opportunités dans notre domaine. Premièrement, on est un peu comme Netflix. On voit vraiment bien comment que les gens jouent à des jeux, quels jeux qu'ils veulent jouer, quand qu'ils jouent. On a vraiment toutes ces données uniques-là à travers genre 400 jeux maintenant. Fait qu'on est vraiment bien positionné pour créer des jeux, puis pour publier des jeux, puis pour partnerer avec des startups qui créent des jeux pour faire leur marketing puis pour publier leurs jeux. Fait qu'on a bâti une petite équipe maintenant qui commence à... Ça s'appelle Misplay Studios. Ils regardent à bâtir nos propres jeux. Dans certains jeux, ça va être des jeux exclusifs pour les membres de Misplay que tu vas pouvoir juste jouer dans l'app Misplay. Fait qu'on est en train de créer des jeux. Ça, c'est opportunité numéro un. Opportunité numéro deux, c'est des outils pour les compagnies de jeux vidéo. Fait que dans le fond, on a 400 jeux qui nous payent à chaque mois en ce moment. Fait qu'on est bien positionné pour créer des outils pour qu'ils puissent mieux bâtir leur jeu et mieux opérer leur jeu. Fait qu'on veut créer des outils de monétisation, des outils d'analytique pour qu'ils puissent mieux opérer leur jeu. Fait que ça, c'est opportunité numéro 2. Puis finalement, je dirais opportunité numéro 3 qu'on regarde. Ça va être tout ce qui est comme blockchain, c'est vraiment intéressant en ce moment. Fait que pour les jeux vidéo surtout. Fait qu'on on est en train d'explorer des opportunités dans le blockchain pour nous autres, parce qu'on est vraiment bien positionné. On donne déjà essentiellement on est en train de donner un token qui est centralisé. Fait que qu'est-ce qu'un token décentralisé ressemblerait? Fait que c'est un peu ça qu'on explore. On explore le Web3 version of Misplay. Fait que ça, c'est un peu une autre opportunité qu'on explore en ce moment. Puis ça, c'est un peu... Puis, obviously, grandir la plateforme. On va continuer à grandir la plateforme. On va lancer la plateforme dans les nouveaux pays, puis dans l'Asie, par exemple. Puis, on veut ajouter plus de... une couche plus sociale, un peu comme un mini Discord pour les joueurs de jeux vidéo mobiles. Fait que ça, c'est une autre opportunité dans la plateforme. Fait que ça, c'est un peu notre futur, dans un nutshell, ouais.
Fantastique. Ben, Henri, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous, de nous avoir expliqué, raconté ton histoire et l'histoire de Misplay, une entreprise qui peut-être bientôt va devenir une licorne, ou peut-être vous l'êtes déjà, qui sait. Comment que les gens peuvent en apprendre plus sur Misplay avant que je te laisse filer?
Ben, dans le fond, il y a misplay.com, c'est notre site web. Misplay.com, il y a une section careers ou jobs, emploi. On embauche beaucoup de gens en ce moment. On est 80 personnes dans la compagnie. Puis on aimerait être 200 à la fin de l'année. Puis on a besoin de beaucoup d'aide des gens qui ont des mindsets entrepreneuriat. On embauche beaucoup de product managers qui sont comme des mini CEOs dans la compagnie. Ils vont run un peu des unités de programmeurs, puis de designers, puis de marketers. Puis ils vont bâtir des mini business dans la compagnie. Fait qu'on cherche des gens de même. Fait que si t'as un mindset entrepreneuriat, ou si tu veux comme commencer à apprendre à être un entrepreneur, c'est une bonne place de commencer comme product manager, puis d'apprendre comment run une petite business avec le financement d'une grosse compagnie ou d'une compagnie comme la nôtre. Puis après, tu vas être bien set up pour créer ta propre compagnie dans le futur. C'est un peu le parcours que moi j'ai pris. J'étais product manager avant.
Fantastique. Henri, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. C'est fascinant votre histoire, puis je vous souhaite une belle hyper croissance pour les années à venir. Et ben, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance. J'espère que le 139e épisode du podcast aura été à la hauteur de vos attentes. À chaque semaine, notre équipe fait tout dans son pouvoir afin de vous offrir un contenu de qualité et on vous remercie d'être si présent avec nous semaine après semaine. D'ailleurs, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.